Voici Red Bull Bora & Groe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.ruflo ou vmedia.de. Et maintenant, profitez bien du nouvel épisode.
Jasper Philipsen remporte la 17e étape du Tour de France. Tadej Pogacar défend le maillot jaune et Remco Evenepoel reste deuxième au classement général. Nous passons en direct en France avec le manager de l'équipe Red Bull, Bora Hansgrohe. Bonjour, Ralf Denk.
Salut depuis Grenoble et amitié à Rosenheim.
Cela fait 7 ans qu'on fait ça, Ralf, mais j'ai rarement été aussi confus qu'aujourd'hui. Peux-tu m'aider à comprendre le déroulement de l'étape? J'ai fini par perdre le fil. C'était encore le Tour de France, c'était une classique. Est-ce dû à la 17e étape, au maillot vert? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
On peut résumer ça rapidement. Une étape chaotique.
Merci.
Nous avons vu beaucoup d'intérêts différents dans la course. La grande bataille pour le maillot vert qui est redevenu très, très serré. C'est un élément de l'étape. Ensuite, ils ont aussi essayé au début avec les coureurs du classement et c'était aussi relativement rapide. Et le troisième actuel, Isaac Del Toro, était aussi par moments distancé, également derrière Remco.
C'était aussi surprenant pour moi, mais enfin, c'était comme ça.
Et d'un autre côté, nous avons bien sûr beaucoup d'équipes qui n'ont encore rien à leur actif ici. Et j'avais critiqué cela au début, surtout lors des étapes de plate, le fait que les petites équipes qui ne peuvent pas jouer de rôle au classement général ne se soient pas assez battues pour les victoires d'étape. Elles se réveillent toutes maintenant. Il nous reste encore 4 jours de Tour de France et là, on n'a toujours rien. C'est pour ça qu'ils ont tous essayé d'attaquer aujourd'hui dans tous les sens. Chacun voulait tenter quelque chose. Et oui, finalement, c'est Jasper Philipsen qui, au sein d'un groupe de tête assez large, a réussi à gagner son étape de manière impressionnante grâce aussi à l'excellent travail préparatoire de Mathieu Van Der Poel.
La concurrence, et nous en venons maintenant à la phase finale, c'est aussi un truc que je n'ai pas compris. Alors, Lidl Trek joue évidemment le maillot vert avec Mads Pedersen, tu l'as mentionné.
Il n'y a plus que 7 points d'écart. Ensuite, Thomas Nuntz, on gagne le sprint intermédiaire. Mais tout cela mène à quelque chose, alors on laisse partir Jasper Stuyven.
Cela conduit alors le groupe juste derrière à se reformer, à rattraper Stuyven, et là... un certain monsieur Van Der Poel est présent qui peut évidemment lancer ce sprint pour Philipsen comme personne d'autre. Est-ce qu'ils ont fait une erreur tactique? Je n'ai pas compris ce choix non plus. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, toute l'équipe Lidl Trek a énormément investi aujourd'hui. Mads Pedersen lui-même a aussi beaucoup, beaucoup investi et nous avions Nico Denz devant hein, et aussi Jai Hindley. Jai Hindley avait un peu un rôle de garde du corps pour nous devant et Nico Denz aurait eu carte blanche, mais je viens de parler brièvement avec Nico. C'était si dur devant et Nico était aussi à la limite, Mads Pedersen aussi. Et c'est pourquoi il n'a pas pu rivaliser au sprint face à Jasper Philipsen. Il a fini 6e ou 7e ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi la lutte pour le maillot vert est à nouveau totalement ouverte.
Tu as mentionné Jai Hindley, Chartesiak, j'ai bien compris pour Nico Denz. On l'a aussi vu assez tôt, une question à son sujet. Était-ce la carte qu'il voulait, jouer aujourd'hui?
Oui, principalement. Nico connaît très, très bien cette région, car le départ était à, oui, Chambéry. Et c'est à Chambéry qu'il a fait sa formation de cycliste. Il a couru là-bas pour l'équipe AG2R chez les moins de 23 ans. C'est basé à Chambéry et donc Nico connaissait très, très bien les routes aujourd'hui ainsi que les montagnes et il s'en sentait tout à fait capable si l'étape suivait un cours relativement normal. Mais ce n'était pas un cours normal car c'était le chaos total et une course super intense en cette troisième semaine. Et c'est pourquoi Nico était complètement à la limite. Il a très bien couru, mais face à un calibre comme Mats Pedersen devant, avec Mathieu van der Poel, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas rivaliser. Et il est bien arrivé dans le groupe de tête, mais il n'était plus en mesure là, d'aller chercher un résultat pour nous.
Tu as parlé de Jai Hindley dans un rôle d'échappé. Je me suis cru dans une machine à remonter le temps, car je l'attendais plutôt à partir de demain, aux avant-postes, pas vraiment aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie, ce rôle de garde du corps, comme tu l'appelles ?
Oui, alors quand de grands groupes de têtes se forment, on veut être présent. C'est simple, on est devant, on montre le maillot et on ne veut pas être sur la défensive. On peut toujours faire revenir des coureurs si besoin, mais on ne peut jamais envoyer des gens à l'avant comme ça. C'est pourquoi, lors des réunions d'équipe, quand un groupe important de plus de 20 coureurs se forme, on demande toujours à quelqu'un d'y aller. C'est faisable, car quand le groupe de tête est aussi grand, alors ça ne devient pas plus dur dans l'échappée que dans le peloton, car tu profites tellement de l'aspiration dans l'échappée que l'effort est quasiment le même, que tu sois devant dans ce groupe ou derrière dans le peloton.
C'est tout pour aujourd'hui. Revenons sur la journée d'hier, le diagnostic de fracture de la clavicule. Quand nous nous sommes parlé la dernière fois, Ralph n'était pas encore confirmé pour Florian Lipovits. Tout le monde a dû l'apprendre. Peux-tu nous donner d'autres nouvelles de Florian ? Où est-il ? Comment va-t-il en ce moment ?
Il va bien. C'est toujours le plus important. Il a été opéré hier soir et c'est une bonne chose. Le processus de guérison peut commencer au plus vite. Nous avons utilisé les contacts du réseau Red Bull pour qu'il soit opéré entre de bonnes mains hier soir ou cette nuit. Et nous ne voulons pas, pour protéger un peu sa vie privée, communiquer où il a été opéré et quand il reprendra l'entraînement et quand il participera aux prochaines courses. C'est encore trop tôt pour le dire, mais je peux vous assurer qu'il va très, très bien compte tenu des circonstances. Je lui ai d'ailleurs parlé ce matin.
Oui, ben, il a pris la chose avec un peu d'humour noir, car la déception est évidemment immense. Il faut savoir qu'on prépare un Tour de France avec plus de 6 mois d'avance. Cela demande des sacrifices, des heures d'entraînement intensif, même par un temps exécrable.
Et il est éliminé comme ça. C'est vraiment, vraiment dur. Mais j'ai aussi dit à Florian que ce n'est pas le premier grand protagoniste à quitter le Tour de France ainsi et ce ne sera pas le dernier. Cela fait partie du jeu et au final, il m'a semblé assez serein lors de notre discussion ce matin.
Très brièvement, il a été opéré quasiment dans la nuit. Vous n'avez pas de chirurgien avec vous. Comment il ne va pas dire « Tiens, voilà l'hôpital du coin, j'y vais pour me faire opérer. » Comment ça se passe concrètement ?
Non, nous avons de notre côté une équipe médicale avec de super contacts et cette équipe a fait un travail formidable, selon moi. Alors, un grand merci encore une fois à mon équipe médicale. Et d'un autre côté, nous avons le réseau Red Bull. Et quand il y a urgence, quand il s'agit d'athlètes importants, on peut régler ce genre de choses rapidement, même pendant la nuit, avant minuit. C'est ce qui s'est passé hier. Et c'est aussi ce qui distingue tout ce projet, le fait d'avoir une telle infrastructure.
Alors, pour ainsi dire, appelé, il s'est passé quelque chose. Prends ta trousse médicale, pour parler franchement, et c'est parti. Je peux me l'imaginer de façon aussi imagée.
C'est à peu près ça. C'est assez sérieux, mais oui, nous avons, grâce à Red Bull, ces réseaux, et nous sommes très fiers et heureux de les avoir.
Quelle est la prévision pour le processus de guérison ? Y a-t-il déjà un objectif ? Tu as donné beaucoup d'entretiens, tu as dit que ce genre de blessure fait malheureusement partie du cyclisme. On le reverra très probablement sur un vélo cette saison. Y a-t-il déjà un objectif ou est-ce trop tôt pour le dire ?
C'est avant tout trop tôt et comme je l'ai dit, c'est purement pour moi mon avis. Je serais ravi qu'il court encore cette année, mais pour savoir lesquels et quand, il faut laisser un peu de temps au temps.
Exact, il a bien le droit à ce repos. Concernant l'aspect mental, est-ce qu'on l'aborde déjà ou le laisse-t-on tranquille pour l'instant ?
Oh, eh bien, il est encore, pour une opération, on a toujours une anesthésie générale. Cela a aussi des séquelles dans une certaine mesure et nous le laissons tranquille quelques jours. Mais nous avons aussi ici, dans notre réseau, des spécialistes qui peuvent apporter un soutien mental ou aider à ce travail mental. Et c'est aussi une question de bon sens. Il faut savoir faire preuve de discernement. Un bon entourage, familial, mais aussi au sein de l'équipe. Nous sommes tous très, très solidaires et nous soutenons Florian, car c'est un athlète exceptionnel qui a énormément apporté à notre équipe. Être à ses côtés quand il est sur le podium, c'est facile, mais c'est précisément dans ces moments-là qu'on voit si on forme une vraie équipe.
Eh bien, ceux qui ne nous laissent pas tranquilles, Ralph, ce sont les auditeurs, car nous recevons énormément de questions. Merci à tous, nous essaierons d'en traiter le plus possible. Nous ne pourrons pas toutes les aborder. C'est le prix à payer pour toutes celles que vous nous envoyez. Mais prenons quelques questions en coulisses aujourd'hui. Commençons. Bergzic, Burgel et Nina Janjic ont une question sur la protection solaire. On ne voit jamais les coureurs se mettre de la crème ou en remettre sur le vélo. Que mettent-ils avant une étape ? Est-ce un produit spécial avec un indice de protection solaire 100 ? Et les maillots sont-ils des vêtements anti-UV ? C'est un sujet qui devient évidemment de plus en plus important. Comment ça se passe alors ?
Oui, on voit ceux qui ne mettent pas de crème, car ils en appliquent énormément avant l'étape. Et si on regarde les vieilles photos de coureurs, on voit cette vraie démarcation, les bras et les jambes noires et le reste du corps blanc. Les coureurs d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ça car ils utilisent beaucoup, beaucoup plus de crème solaire.
La plupart des coureurs prennent le sujet très, très au sérieux et utilisent un indice de protection élevé. Et nous avons dans les bus différents indices de protection. Chacun peut décider selon la sensibilité de sa peau, mais c'est vraiment utilisé.
Mais s'agit-il de produits spécifiques, si je peux me permettre de poser la question ?
Oui, nous avons ces produits de notre partenaire Dynamic Bike and Body Care. Et les coureurs les utilisent aussi volontiers.
Les maillots ont-ils une fonction spéciale dont on a besoin ?
Non, plutôt dans l'autre sens. Plutôt dans l'autre sens, au point que ça laisse passer la lumière, ils sont si fins. Il faut donc aussi se mettre de la crème sur le dos avant d'enfiler sa tenue de course. Thomas, si on ne veut pas attraper de coups de soleil dans le dos.
D'accord, cela ne vaut pas seulement pour les cyclistes sur route. L'indice de protection, la protection solaire est bonne pour tout le monde. Prenons la question suivante. Axel Jacquin veut connaître votre avis sur le départ du Tour prévu en 2029 à Berlin. Est-ce une bonne idée en principe ? Faudrait-il plutôt miser sur des courses régionales et y investir l'argent ? Quel est ton avis sur cette idée qui est déjà bien avancée ? La candidature pour le départ du Tour est déposée et est déjà assez concrète. Rien n'est encore sûr, mais on est dans la dernière ligne droite. Quelles sont tes pensées sur ce départ prévu en 2029 ?
Pour une première d'une écurie allemande, avoir un grand départ en Allemagne, c'est certainement... oui, je sais, c'est beau. J'ai pu vivre le grand départ 2017 à Düsseldorf. C'était notre première année dans le World Tour. Le Tour de France a débuté là-bas à Düsseldorf. C'était un immense spectacle. Maintenant, Berlin est en discussion et je ne connais pas la société exploitante derrière la candidature. Ils ne se sont pas encore présentés à moi jusqu'à présent, mais je connais la position de l'ASO. J'en ai parlé avec Christian Prudhomme en marge du Tour de Valence fin mars.
Et Christian Prudhomme est quand même un visionnaire et il dit simplement, si ça se fait, alors le grand départ du Tour de France doit avoir lieu à Berlin. C'est alors un événement politique majeur où probablement, au final, ce sont Macron et Merz qui concluront l'accord entre eux. Et là, les fonds sont plus faciles à débloquer que si cela se passait au niveau régional. C'est pourquoi je pense vraiment que Berlin a de très, très bonnes chances. Au départ, c'était plutôt prévu dans les Länder de Thuringe et de Saxe, mais ce n'est évidemment pas aussi séduisant que la capitale. C'est pour cela que Christian Prudhomme m'a dit que sa préférence claire serait Berlin. Et je pense aussi que l'on peut surpasser le concurrent, et c'est un concurrent sérieux, la Slovénie, qui est le pays natal de Primož Roglič et Tadej Pogačar, qui est aussi candidat pour le grand départ 29, ou du moins les convaincre avec des arguments pourquoi Berlin et pourquoi pas la Slovénie.
Il y a une procédure d'appel d'offres et je pense qu'avec Berlin, nous avons de solides arguments.
La chute du mur, il y a 40 ans, jouera peut-être un rôle symbolique pour raviver ce thème et le rappeler à notre mémoire. Et la ville de Berlin a déjà accueilli le Tour de France dans les années 80, à une époque où le mur était encore debout.
Je m'en souviens encore, j'étais tout petit. C'est pour ça que je serais ravi qu'on prenne le départ à Berlin en 2029.
Exactement. Et quand tout sera confirmé, nous pourrons, je l'espère, en reparler ici dans les prochaines années. Restons en Allemagne et penchons-nous sur le Tour d'Allemagne qui aura lieu du 19 au 23 août. Christian Adelman veut savoir quelle est l'importance du Tour d'Allemagne pour vous. Et les fans peuvent-ils espérer voir des noms prestigieux de votre équipe ?
Quant à savoir qui courra finalement le Tour d'Allemagne, pour nous, nous sommes encore en train de jongler. Je ne peux donc pas encore citer de nom, mais comme elle ne fait pas partie du World Tour, mais de la Pro Series, soit une catégorie en dessous du World Tour, cela nous permettra peut-être d'intégrer un ou deux débutants, ce que je trouve très intéressant. Le Tour d'Allemagne est pour nous vraiment important car c'est notre course nationale. Nous n'avons pas tant de courses que ça en Allemagne. À mon avis, elle est un peu mal placée dans le calendrier, elle tombe le même week-end que le départ du Tour d'Espagne. Nous avons aussi en même temps la course du World Tour, le Tour du Benelux. Nous avons donc trois programmes ce week-end-là, soit trois courses différentes. Cela représente un gros effort pour notre équipe, mais d'un autre côté, cela dilue un peu le niveau et je préférerais que le Tour d'Allemagne ait lieu à une autre date. Je trouverais le mois de mai assez intéressant, peut-être en parallèle du Tour d'Italie où il y a moins de courses, là où se déroulait autrefois le Tour de Bavière. C'était toujours un peu le prélude à la préparation du Tour de France. Je pense qu'on pourrait générer encore plus d'attention qu'en plein mois d'août.
Prenons la dernière question. Manuel Wirtz veut en savoir plus sur les messages radio diffusés à la télévision. Sont-ils filtrés au préalable et les équipes savent-elles que leurs messages seront diffusés ? Car il y a certainement des choses qui ne sont pas destinées au public.
Les équipes ont accepté de vendre les communications radio à ASO. On reçoit un peu d'argent, je dis bien un peu plus d'argent, et ASO les revend ensuite à la société qui produit le signal télé. Ils arrivent avec un léger différé, ils sont bien réels.
C'est exactement ce que dit le directeur sportif. C'est diffusé en différé, donc ce n'est pas pertinent pour la course et cela ne fausse pas la compétition si quelque chose est révélé.
Mais je veux dire, tu n'es pas directement impliqué dans ces communications radio, mais pourrait-on leur dire de ne pas rendre cela public ou bien au moment où on les vend? Comme tu dis, est-ce qu'on perd tout contrôle sur ce qui a été vendu?
Non, donc c'est vraiment non filtré et ça doit le rester parce que sinon, on finit par n'entendre que ce qu'on ne veut pas entendre. Et donc, c'est très bien que ce soit non filtré. Et c'est aussi un peu déroutant pour les directeurs sportifs dans la voiture de garder ça en tête toute la journée, de ne pas lâcher des choses qui, comment dire, sont parfois en dessous de la ceinture.
C'est pourquoi il faut ouvrir les yeux et les oreilles ou le cerveau avant de laisser parler la bouche.
Ça ne fait jamais de mal dans la vie. Alors, merci beaucoup pour ces éclairages, Ralph. Et nous nous tournons vers demain, vers ce jeudi. Ça commence à 12h35. L'arrivée est prévue vers 17h15. Ça va de Voiron à Orcières-Merlette. La trilogie alpine commence. 185 km seront parcourus. Au début, une ascension de première catégorie, suivie d'une deuxième catégorie, deux troisième catégories, et l'arrivée au sommet est à nouveau de première catégorie.
Alors, qu'est-ce qui nous attend demain après la trilogie alpine avec deux fois l'Alpe d'Huez? Je trouve ça très difficile à prévoir. Quel est ton sentiment, ton avis? Qu'est-ce qui nous attend demain?
Oui, je connais assez bien la montée finale. Nous avons déjà eu une arrivée au sommet du Tour de France ici il y a quelques années. C'est une terrasse assez large, pas trop raide. Ce n'est pas encore la haute montagne. La haute montagne, ce sera pour vendredi et samedi. Je pourrais imaginer que demain, il y aura peut-être une chance, peut-être pour une échappée. C'est pourquoi, pour le premier col qui arrive après 45 kilomètres, il y aura certainement une lutte acharnée pour faire partie de l'échappée. Et puis, je m'attends peut-être s'il y a une échappée à deux courses, une pour la victoire d'étape et l'autre pour le maillot jaune. Mais je pense aussi que parmi les favoris, c'est-à-dire les coureurs qui visent le podium, personne ne jouera encore toutes ses cartes demain. Et c'est pourquoi je pense que le groupe autour de Pogacar, donc les meilleurs grimpeurs du monde, dont fera, espérons-le, partie Remco Evenepoel demain, arrivera là-haut à relativement grouper.
Avec l'abandon de Florian Lipovits, y a-t-il une nouvelle approche tactique? Hier, tu disais que c'était trop tôt pour en parler. Est-ce que c'est défini pour demain?
Oui, nous avons évidemment regarder le résultat et nous avons plus de 2 minutes d'avance sur le troisième et nous pouvons surtout aborder cela avec sérénité et courir de manière plutôt passive car nous n'avons pas besoin de gagner du temps. Les autres doivent nous reprendre du temps dans la lutte pour le podium et surtout demain, je pense qu'il vaut mieux pour nous aborder ça de manière prudente. Et je suis certes toujours d'avis que la meilleure défense, c'est l'attaque, mais tu as parlé de la trilogie alpine. Peut-être qu'il ne faut pas faire ça dès le premier jour.
Bien, le chaos est trié. Merci à toi, cher Ralph. Bonne chance pour demain. Merci beaucoup pour aujourd'hui et nous discuterons tous deux de la première partie de la trilogie demain, au même endroit comme d'habitude. Meilleures salutations en France et merci à Ralph Denk.
Avec grand plaisir et bonne soirée. Salutations à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et d'IPN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.